Livre deuxième, chapitre 4. Clair de lune. Pourtant, cette femme lui aurait donné son peigne et même sa chevelure aussi par amour. S'il ne le demanda pas, ce fut par scrupule. Crésis avait exigé un crime et non pas tel bijou ancien piqué dans les cheveux d'une jeune femme. Il devait tuer. Il tua. Il aurait pu considérer encore que les serments qu'on fait aux femmes pendant les excès amoureux peuvent s'oublier dans l'intervalle sans grand dommage pour la valeur morale de l'amant qui les a jurés, et que, si jamais cet oubli involontaire devait se couvrir d'une excuse, c'était bien dans la circonstance où la vie d'une autre femme assurément innocente se trouvait dans la balance. Mais Démétrios ne s'arrêta pas à ce raisonnement. L'aventure qu'il poursuivait lui parut trop intéressante pour en escamoter les incidents violents. Il craignit de regretter plus tard d'avoir effacé de l'intrigue une scène courte et cependant nécessaire à l'harmonie de ses proportions. Souvent, il ne faudrait qu'une défaillance vertueuse pour réduire une tragédie aux banalités de l'existence normale. La mort de Cassandra, se dit-il, n'est pas un fait indispensable au développement de l'Agamemnon, mais si elle n'avait pas lieu, toute l'Orestie en serait gâtée. C'est pourquoi, ayant coupé la chevelure de Touni, il serra dans ses vêtements le peigne d'ivoire historié et, sans réfléchir davantage, il entreprit le troisième des travaux commandés par Crésis, la prise du collier d'Aphrodite. Il ne fallait pas songer à entrer au temple par la grande porte. Les 12 hermaphrodites qui gardaient l'entrée eussent sans doute laissé passer Démétrios, malgré l'interdiction qui arrêtait tout profane en l'absence des prêtres, mais il lui était inutile de prouver aussi naïvement sa future culpabilité, puisqu'une entrée secrète menait au sanctuaire. Démétrios se rendit dans une partie du bois, déserte, où se trouvait la nécropole des grands prêtres de la déesse. Il compta les premiers tombeaux, fit tourner la porte du septième et la referma derrière lui. Avec une grande difficulté, car la pierre était lourde, il souleva la dalle funéraire sous laquelle s'enfonçait un escalier de marbre, et il descendit marche à marche. Il savait qu'on pouvait faire 60 pas en ligne droite et qu'après, il était nécessaire de suivre le mur à tâtons pour ne pas se heurter à l'escalier souterrain du temple. La grande fraîcheur de la terre profonde le calma peu à peu. En quelques instants, il arriva au terme. Il monta. Il ouvrit. La nuit était claire au dehors et noire dans la divine enceinte. Lorsque, avec précaution, il eut refermé doucement la porte trop sonore, il se sentit plein de frissons et comme environné par la froideur des pierres. Il n'osait pas lever les yeux. Ce silence noir l'effrayait. L'obscurité se peuplait d'inconnus. Il se mit la main sur le front, comme un homme qui ne veut pas s'éveiller de peur de se retrouver vivant. Il regarda enfin. Dans une grande lumière de lune, la déesse apparaissait sur un piédestal de pierre rose chargé de trésors appendus. Elle était nue et sexuée, vaguement teintée selon les couleurs de la femme. Elle tenait d'une main son miroir dont le manche était un priape, et de l'autre adornait sa beauté d'un collier de perles à 7 rangs. Une perle plus grosse que les autres, argentine et allongée, brillait entre ses deux mamelles comme un croissant nocturne entre 2 nuages ronds. Et c'était les vraies perles saintes, nées des gouttes d'eau qui avaient roulé dans la conque de l'Anadiomène. Démétrios se perdit dans une adoration ineffable. Il crut en vérité que l'Aphrodite elle-même était là. Il ne reconnut plus son œuvre, tant l'abîme était profond entre ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Il tendit les bras en avant et murmura les mots mystérieux par lesquels on prie la déesse dans les cérémonies phrygiennes. Surnaturelle, lumineuse, impalpable, nue et pure, la vision flottait sur la pierre, palpitait moelleusement. Il fixait les yeux sur elle et pourtant Il craignait déjà que la caresse de son regard ne fît évaporer dans l'air cette hallucination faible. Il s'avança très doucement, toucha du doigt l'orteil rose, comme pour s'assurer de l'existence de la statue, et, incapable de s'arrêter tant elle l'attirait à soi, il monta debout auprès d'elle et posa les mains sur les épaules blanches en la contemplant dans les yeux. Il tremblait, il défaillait, il se prit à rire de joie. Ses mains erraient sur les bras nus, pressaient la taille froide et dure, descendaient le long des jambes, caressaient le globe du ventre. De toute sa force, il s'étirait contre cette immortalité. Il se regarda dans le miroir, il souleva le collier de perles, l'ôta, le fit briller à la lune et le remit peureusement. Il baisa la main repliée, le cou rond, l'onduleuse gorge, la bouche entrouverte du marbre. Puis il recula jusqu'au bord du socle et, se tenant au bras divin, il regarda tendrement la tête adorable inclinée. Les cheveux avaient été coiffés à la manière orientale et voilaient le front légèrement. Les yeux à demi fermés se prolongeaient en sourire. Les lèvres restaient séparées, comme évanouies d'un baiser. Il disposa en silence les 7 rangs de perles rondes sur la poitrine éclatante et descendit jusqu'à terre pour voir l'idole de plus loin. Alors, il lui sembla qu'il se réveillait. Il se rappela ce qu'il était venu faire, ce qu'il avait voulu, failli accomplir. Une chose monstrueuse. Il se sentit rougir jusqu'aux tempes. Le souvenir de Crisis passa devant sa mémoire comme une apparition grossière. Il énuméra tout ce qui restait douteux dans la beauté de la courtisane. Les lèvres épaisses, les cheveux gonflés, la démarche molle. Ce qu'étaient les mains, il l'avait oublié. Mais il les imagina larges pour ajouter un détail odieux à l'image qu'il repoussait. Son état d'esprit devint semblable à celui d'un homme surpris à l'aube par son unique maîtresse dans le lit d'une fille ignoble et qui ne pourrait pas s'expliquer à lui-même comment il a pu se laisser tenter la veille. Il ne trouvait ni excuse ni même une raison sérieuse. Évidemment, pendant une journée, il avait subi une sorte de folie passagère, un trouble physique, une maladie. Il se sentait guéri, mais encore ivre d'étourdissement. Pour achever de revenir à lui, il s'adossa contre le mur du temple et resta longtemps debout devant la statue. La lumière de la lune continuait de descendre par l'ouverture carrée du toit. Aphrodite resplendissait, et comme les yeux étaient dans l'ombre, ils cherchaient leur regard. Toute la nuit se passa ainsi. Puis le jour vint, et la statue prit tour à tour la lividité rose de l'aube et le reflet doré du soleil. Démétrios ne pensait plus. Le peigne d'ivoire et le miroir d'argent qu'il portait dans sa tunique avaient disparu de sa mémoire. Il s'abandonnait doucement à la contemplation sereine. Au dehors, une tempête de cris d'oiseaux bruissait, sifflait, chantait dans le jardin. On entendait des voix de femmes qui parlaient et qui riaient au pied des murs. L'agitation du matin surgissait de la terre éveillée. Démétrios n'avait en lui que des sentiments bienheureux. Le soleil était déjà haut et l'ombre du toit s'était déplacée quand il entendit un bruit confus de pas légers fouler les marches extérieures. C'était sans doute un sacrifice qu'on allait offrir à la déesse, une procession de jeunes femmes qui venaient accomplir des vœux ou en prononcer devant la statue pour le premier jour des aphrodisies. Démétrios voulut fuir. Le piédestal sacré s'ouvrait par derrière d'une façon que les prêtres seuls et le sculpteur connaissaient. C'était là que se tenait l'hiérophante pour dicter à une jeune fille dont la voix était claire et haute les discours miraculeux qui venaient de la statue le 3e jour de la fête. Par là, on pouvait gagner les jardins. Démétrios s'y pénétra et s'arrêta devant les ouvertures bordées de bronze qui perçaient la pierre profonde. Les 2 portes d'or s'ouvrirent lourdement, puis la procession entra.